La une de ce midi, c'est la visite de Catherine Chabot qui continue. Elle était au port ce matin. On reviendra sur le 29 juin et cette annonce d'Oscar Temaru. Le Tavinet aura des candidats au sénatorial. Et puis on terminera avec les trials de la Tahiti Pro. Ça commence jeudi. Le journal, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et on commence avec la visite de Catherine Chabot. La ministre continue ses rencontres en Polynésie.
Oui, après Moorea et Raiatea ce week-end, puis la presqu'île hier, retour à Papeete autour du port ce matin. La ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche est allée à la rencontre de la filière thonnière du côté de Fareoute. Visite de navires, des ateliers de découpe, mais surtout long entretien avec les armateurs et les marins qui avaient beaucoup à dire sur les aires marines protégées. Aussi les projets de quotas dans la région à l'export de poissons vers l'Europe. L'ancienne navigatrice a pris bonne note, mais c'est peut-être une autre discussion qui a retenu son attention ce matin. À bord du Veitere 2, actuellement bloqué à quai par un problème de moteur, lui a été présenté un projet de cargo à voile pour relier les Raromatei. Il s'agit de Veitere, un projet porté déjà depuis de plusieurs années par Georges Moari, mais que le nouveau dirigeant du groupe, Tino Fashing-Chong, a réorienté depuis son rachat de parts voilà un mois. L'idée est désormais de se doter d'un cargo mixte de 90 mètres avec une double voile rigide qui peut être repliée sur le pont. De quoi faire d'importantes économies de carburant, écoutez.
Ben, ça a permis, en allant vers les îles sous le vent, d'avoir du vent, parce que c'est du vent dominant chez nous, c'est de l'est-nord-est. Hein. C'est un vent très favorable pour la traversée Papeete et Ouiné. Donc ça nous permet certainement, et c'est sûr, d'économiser du gasoil et puis du gaz à effet de serre. Hein. Ça va avec. Quoi. Et au retour, ben, si on a les bonnes alizés, ça peut aussi rendre le voyage aussi économique. Et puis si chez nous, au retour, il y a du maramou, ça permet de... On va dire affaler les deux voiles par terre et puis continuer à faire face aux éléments naturels.
Voilà Tino Fashing-Chong, ancien capitaine du Terevao et déjà patron du Vaiarei, qui a donc présenté à la ministre avec fierté, dit-il, ce projet en construction. Il faut encore finaliser le projet, commander les plans, puis trouver un chantier, probablement entre l'Espagne, la France et l'Europe. Il faut noter que ce Veitere aurait un emport de 2700 tonnes contre 1000 pour le Veitere 2 actuel. Un gain de taille qui est cohérent avec les dernières arrivées de goélettes. Le Avekinui 2, par exemple, qui dessert déjà les Raromatei, ce nouveau navire pourrait arriver en 2029 et coûter 5 milliards de francs. Catherine Chabot, elle, a continué sa visite vers le SWAC, qui est le centre des métiers de la mer. Son déplacement officiel prend fin ce soir, mais nous lui tendrons le micro avant son décollage et vous pourrez l'entendre dans votre matinale de demain sur Radio 1 et Thierry FM.
On continue avec de la politique et ce 29 juin, comme à chaque fois, il y avait deux stèles, deux ambiances.
Et oui, à la stèle de Paofei, une centaine de cadres et sympathisants des partis autonomistes étaient réunis. Pas de liesse populaire, mais des discours pour louer les 42 ans d'un statut qui, je cite, a permis à tout un pays de s'épanouir. Gaston Flos, qui était présent, a toutefois appelé une nouvelle fois à dépasser l'autonomie pour la souveraineté associée. Et puis à la stèle de Tavararo, c'est le Tavini qui s'est réuni en soirée pour commémorer l'annexion de la Polynésie. Oscar Temaru y était, première apparition publique depuis son hospitalisation. Il a rappelé son parcours politique et les difficultés rencontrées et annoncé aussi, selon nos confrères de Tahiti Info, que Tony Giros et Richard Tuheiava seraient candidats au sénatorial. Une annonce qui a visiblement surpris Tony Giros qui a dit à nos confrères avoir besoin d'encaisser et de réfléchir.
Dans l'actualité aussi, ce midi, on a appris qu'une famille de Toulon avait été mise en examen après la disparition de deux militaires, un Calédonien et un Polynésien.
Oui, cette famille a été mise en examen pour traite d'êtres humains en bande organisée. Elle est suspectée de violences, séquestrations et extorsions visant plusieurs militaires originaires de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. Deux ont disparu, mais au moins sept personnes seraient concernées. L'affaire a été révélée par le média local Var Matin, qui met notamment en avant la disparition de Jacques Paquesso, un Calédonien, et Mike Ginest, un Polynésien. Ils n'ont plus donné signe de vie depuis 2022 et 2023. Les enquêteurs soupçonnent la famille d'avoir organisé des soirées tahitiennes afin de les attirer pour les dépouiller de leurs effets personnels. Des ossements humains ont par ailleurs été découverts dans les Bouches-du-Rhône et pourraient appartenir aux deux militaires disparus. La mère de cette famille et l'un de ses fils, soupçonnés d'avoir commis les homicides, ont été placés en détention provisoire.
Du sport maintenant avec les trials de la Tahiti Pro qui commencent jeudi.
Et oui, la waiting period est prévue du 2 au 5 juillet, mais ça devrait surfer dès jeudi et vendredi aussi. On attend de belles conditions, le bon vent, une houle de sud-ouest avec de la taille et pas mal d'énergie, des vagues de 3 mètres jeudi, 2 mètres vendredi. Ce sont les prévisions de Kevin Bourrez. Le cadre technique de la Fédération Tahitienne de Surf était dans nos studios ce matin. Les trials, c'est la compétition avant la compétition, la possibilité pour les surfeurs locaux de gagner une place et être sur l'étape de la Tahiti Pro du Championship Tour, affronter les meilleurs et puis l'occasion aussi de se mesurer à la passe de Hawaii.
Pour nous, Te'ahupo, c'est un passage obligatoire. C'est une chance d'avoir cette vague ici, juste à côté de chez nous. On n'a pas besoin de faire des heures de voyage et de traverser, par exemple, pour aller surfer cette vague. Donc, c'est vraiment une opportunité pour nos jeunes. Il faut qu'ils la surfent le plus possible. Pendant le stage héritage, on essaye de se déplacer sur Te'ahupo et la presqu'île le plus possible. On voit que les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus précoces. Ils arrivent à y aller dans des conditions de plus en plus grosses, mais aussi à se mettre en sécurité. Ils ont tous le casque.
Voilà, la fédération qui accompagne les espoirs du surf, que ce soit en coaching avec les stages du programme Héritage, dont Kevin Bourrez vient de parler, ou sur les compétitions du Tour, les Qualifying Series et ensuite les Challenger Series qui mènent au CT. Et d'ailleurs, la saison QS de la région s'est ouverte à Tahiti pour la première fois cette année.
Ramener la compétition à Tahiti et surtout débuter la saison. Ça, c'était vraiment une chose qui nous tenait à cœur. Le fait de commencer la saison sur des vagues qu'ils connaissent, ça leur permet de leur mettre en confiance, d'aller chercher des points et de pouvoir après aller continuer sur les compétitions à Hawaï. Là, il y a eu une compétition qui s'est passée à la suite de ces deux QS à La Moana à Hawaï et il y a Miliani Simon qui a fait finale là-bas. Donc ça montre qu'il y a certains surfeurs qui continuent à suivre le tour.
Et puis la Fédé va réorganiser aussi ce déplacement groupé pour les deux derniers QS de l'année. Ce sera à Hawaï en octobre et en novembre. Les trials à Te'ahupo commencent donc jeudi. L'occasion de revenir avec Kevin Bourrez sur ces questions de sécurité. Pendant les compétitions, pas de questions à se poser, c'est encadré. Mais quand les grosses houles arrivent, les surfeurs et photographes du spot commencent à réclamer plus de sécurité. Un débat qui préoccupe aussi la Fédération Tahitienne de Surf.
Ben en fait, il y a tout un univers qui essaie de se partager un tout petit espace. Donc il y a les photographes qui sont à l'eau, il y a les surfeurs, il y a les bateaux, il y a les taxi boats et tout ça dans un tout petit espace, dans une faille avec des tonnes et des tonnes d'eau qui arrivent juste là. Donc c'est impressionnant et c'est vrai que quand on voit des touristes, des personnes âgées ou des enfants qui sont plus près de la vague, ils ont rien à faire là. Et les surfeurs, les photographes, on est là pour travailler, on est là pour faire rayonner aussi la Polynésie à l'international. C'est dommage d'en arriver là, mais il va falloir sanctionner et mettre des règles parce que là, c'est vraiment plus possible.
Voilà, une interview de Kevin Bourrez que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site radio1.pf.
Et on termine avec Inopoco de Vez qui vient de couronner Léa Dia comme Miss Tahiti 2026.
Et Miss France parle avec émotion d'une page qui se tourne au Fénois, mais d'un tourbillon qui continue aussi en France avec un planning toujours aussi chargé.
Oui, bah après c'est temporaire. Cette vie, c'est un passage, c'est on va dire un ticket gagnant pour des opportunités qui vont s'ouvrir par la suite, pour aussi une expérience de vie unique, remplie et riche de tellement d'expériences et d'univers que tu vas découvrir. Mais après, ce n'est qu'un passage, c'est-à-dire que la vie de Miss France, c'est une parenthèse pour une suite. C'est un vrai tremplin, comme dit Camille, c'est vrai, mais voilà, il faut se rappeler d'où on vient, parce que cette vie dure un an, et une fois que tout est terminé, ben, tu retournes à ta vie, à toi.
Et donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a dit au revoir à son public vendredi soir. Inopoco de Vez qui est repartie en France, très heureuse d'avoir rencontré et couronné la nouvelle Miss Tahiti, Léa Diar. Elles étaient 10 candidates, il a fallu faire un choix, c'est Miss France 2015. Camille Serre qui présidait le jury cette année, on l'écoute.
En fait c'est dur parce que on se dit on va changer la vie d'une jeune femme. Évidemment il y a nos cœurs qui nous disent ah mais celle-ci elle m'a vraiment touchée, son histoire m'a touchée, mais est-ce qu'elle a le potentiel d'aller plus loin à Miss France? Est-ce que, parce que Miss France c'est une aventure qui est très dure, elle part un mois de chez elle, est-ce que psychologiquement elle saura vivre, gérer cette aventure? Donc il y a plein de choix qui entrent en compte, mais au final je pense qu'on était tous plutôt d'accord pour élire Léa, on pensait qu'elle avait les épaules suffisantes pour cette aventure.
Voilà, Léa Diar qui recevra tous les conseils de Hinaopoko Deves pour ses prochaines semaines et prochains mois. Tout le monde rêve déjà d'un doublé avec une Miss France qui viendra encore de Polynésie. On croise les doigts, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash. Et puis tout de suite, eh bien, on repart sur le terrain pour la suite du match France-Suède. 1-0 pour le moment pour la France.
Bah on y va tout de suite. Merci beaucoup, Lucie. Bon après-midi.